Nous sommes avec Basic Partner, un quatuor nantais, donc on va dire Nantes, même Rennes, de rock psyché. Alors vous avez sorti un premier album New Decade en avril 2025, après un premier EP Insomnia Road en 2023, donc chez À temps rêvé du roi et chez Daydream. Alors peut-être première question tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur votre rencontre en 2019?
Du coup, on s'est rencontrés Clément et moi en 2019. Voilà, on avait un autre projet avant. Le projet s'est arrêté, puis on a décidé de monter Basic Partner juste après. Donc Basic Partner, c'est arrivé plutôt en 2021. On a fait le premier concert en 2022, Basic Partner, et le projet a commencé vraiment en 2022.
Alors le quatuor, c'est Sacha, Clément, Marius et Anton. Basic Partner, c'est une histoire de voiture.
Oui, c'est une histoire de voiture. C'est, en gros, on pensait que la voiture de Clément, c'était un partner. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est un berlingot. Donc, en fait, on est parti, on cherchait un nom, on est parti en vrille, et puis c'est tombé sur la bagnole de Clément. Et même ça, on n'a pas réussi.
Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos influences? Donc, tu l'as un petit peu évoqué juste avant. Vous étiez dans d'anciens projets. On peut écouter dans votre son qu'il y a du clavier, du saxo, de la batterie et bien d'autres choses. Vos influences anciennes sont diverses aussi. Ça va de la folk, du punk, de l'électro, de la pop. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de tout ça?
En fait, on écoute chacun de notre côté plein de trucs différents. Donc là, tu as cité de la folk, tu as cité de l'électro. Il y a même du rap aussi, il y a du post-punk, il y a du rock, il y a du plein de trucs. Voilà. Et au début du projet, ça a été un peu entre guillemets compliqué de. Enfin, ça a été la découverte de mettre un peu nos inspis chacun sur la table, quoi, et de trier et de savoir ce qu'on allait en faire. Donc tout ça, ça a donné le premier EP, Insomnia's Road, qui est sorti en 2023. Et par la suite, on a fait notre premier album, on a affiné encore un peu plus. Et puis là, maintenant, on essaye encore d'affiner, et ça donne ce que Basic Partner est aujourd'hui. Et on dirait que c'est plutôt du. Donc plus du tout du rock psyché, mais du rock alternatif à teinté de pop, je pense, et de noise. Que ça soit musicalement, même esthétiquement, c'est des choses qui nous inspirent. À l'image, à la musique, même comment ça a été enregistré, les albums à ces époques-là et tout. Et on est plusieurs à le faire en France et pas que d'ailleurs, mais en tout cas, on aime s'approprier ces codes-là et essayer d'en faire autre chose aussi en incorporant d'autres... des éléments plus un peu électro, tu vois, dans l'album il y a des morceaux où on a rajouté des gros synthés avec des grosses basses, des sidechains, donc c'est un procédé qui fait que ta musique, elle peut sonner en tout cas plus électro, même plus techno carrément. On a écouté plein de choses, on a affiné et on essaye de ce que, voilà, uniforme, exactement.
C'est ce qu'on entend justement dans le dernier titre qui vient de sortir, Fadeless. Est-ce que vous pouvez peut-être en parler de ce morceau-là spécifiquement?
Oui, donc ce morceau qu'on va sortir en novembre, donc on l'a enregistré cet été, après une phase en avril où on a commencé justement à se diriger vers d'autres influences un petit peu plus tranquilles, on va dire un peu plus pop. On l'a enregistré en août. Et au studio, on l'a quand même pas mal réarrangé aussi, de la même manière d'ailleurs qu'un deuxième single qui fait partie d'un double single, mais on en sortira peut-être qu'un, on verra peut-être les deux. Et en tout cas, on a testé d'autres influences, on a testé d'autres instruments aussi, avec la guitare acoustique d'ailleurs qui sera dessus. Et je pense que du coup, ça donne un petit vent frais, je pense, au projet, surtout après New Decade, qui est un peu plus sombre aussi, même s'il est aussi un petit peu lumineux sur certaines parties, un peu pop, un peu chanté, etc. Là, on a vraiment voulu tester d'autres choses, mais en gardant quand même notre esthétique et le Basic Partner assez intense au niveau du son.
C'était au niveau du format aussi, on s'est rendu compte que de sortir juste un son, c'était plus facile aussi pour les gens qui vont écouter que de demander à quelqu'un qui ne te connaît pas de prendre, je sais pas, 40 ou 45 minutes de sa journée pour vraiment t'écouter. Je pense que dans notre album, il y a pas mal de morceaux qui sont passés à la trappe parce que on n'est pas un groupe connu, et je pense que on a toujours tout à prouver, même je pense quand on est plus connu que nous. Je pense qu'on s'est rendu compte que pour les gens, c'était aussi plus facile à s'approprier juste un morceau, tu vois, même pour nous, pour essayer des nouvelles choses comme la guitare acoustique ou ce genre de choses que je pense qu'on n'aurait peut-être pas osé faire sur un grand format, comme un album ou comme un long EP. on a fait un EP, on a fait un album, et là je crois qu'on a envie d'essayer de pas trop se prendre la tête et de faire du single, du format un peu plus court, de tester d'autres choses. Ça peut être chouette aussi de compiler des morceaux qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres.
À quatre pour composer.
Pour le processus créatif, ça se fait en plusieurs phases, je pense. Il y a souvent quelqu'un qui ramène des idées, qui vient par exemple avec des petits riffs ou même une idée en tête. Il a écouté quelque chose, il a envie de créer quelque chose autour de ça. Et après, il y a tout un processus collectif qui se met en place, où du coup là, on va essayer de chacun s'emparer de cette idée et d'en faire quelque chose, donc tout un taf d'arrangement. Puis après, on a aussi beaucoup un taf de pré-production, où on enregistre nous-mêmes, où on prend le temps de tester des choses, et justement de sortir de ce côté répète, où on a juste nos instruments et on fait ce qu'on sait faire avec nos instruments. Là, ça nous permet d'aller vers d'autres horizons. Production en général, en fait. Donc avec les synthétiseurs et tout ça, et la guitare. Quoi.
Vous avez aussi une approche cinématographique de votre musique. Vous avez tendance à dire que l'image et David Lynch, dans sa façon de capter l'image, vous intéresse beaucoup. On le voit aussi dans vos clips où on a l'impression de voir aussi des micro-courts-métrages où il peut y avoir des personnages principaux qui font un petit peu peur. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'image aussi qui habille, on va dire, votre son?
Oui, David Lynch, en fait, on va dire que c'est une des références parmi tant d'autres. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup attiré par l'univers cinématographique et même au-delà des clips, des réels qu'on voit en fait continuellement, que ce soit par des réels sur Instagram, que ce soit par des documentaires, par ce qu'on voit au cinéma, etc. Et donc effectivement, par exemple New Decade, sur l'idée des masques, etc., moi j'avais beaucoup de rapprochements avec tout ce qui était court-métrage avec David Lynch. On n'est pas comme Choke, j'aurais bien voulu, qui eux sont dans le cinéma d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans leur visuel et tout. Mais nous on travaille aussi avec une personne, Marine Bouteiller, qui est graphiste et qui fait de la photo et qui, pareil, du coup, nous a aussi donné beaucoup de tips dans l'univers en fait visuel, graphique. Et ça fait que aujourd'hui, plus qu'avant, alors que je pense qu'on est déjà très attiré par les sens de la vue, etc., c'est des choses qui peuvent très vite nous inspirer. Et du coup, bah, des fois, on a envie de s'inspirer de tel réal, de telle personne. On voit un clip, on se dit waouh, ça c'est merveilleux. Et donc là, par exemple, avec Fadeless, on se dirige plutôt vers quelque chose dans les années 90, avec des images un peu plus colorées, tout ce qui est Super 8, tout ce qui est 90s, un peu plus. Mais après, tout ça, ça va évoluer aussi avec le temps, avec nos influences et nos inspirations, et parce qu'on n'a pas envie de se brider sur un format.
L'année dernière, on va parler un petit peu de la scène, vous êtes fait repérer et ô combien au Transmusical de Rennes, aux Libertés. Quel souvenir d'abord vous en gardez par rapport à ce qui s'est passé pour vous par la suite?
Eh bien, un souvenir de stress intense. Il y a eu un peu le même format qu'ici, il y avait des interviews et tout ça, et au fur et à mesure des interviews et du temps, notre cerveau, premier degré, se décomposait. Et je crois qu'on répondait genre comme ça, tu vois. Et ça a été un moment hyper intense, que ça soit avant, pendant ou même après. Et c'est la première fois qu'on s'est retrouvé devant autant de gens aussi. Il y avait, je sais plus, peut-être 2000 personnes ou 2500 personnes dans la salle. Pour Jeux Trans, on a fait une sorte d'audition à l'Ubu avec Jean-Louis Brossard qui était là. Et en fait, à l'issue de cette audition, il est venu nous donner sa réponse. Et en fait, nous, on a eu la chance d'avoir quand même pas mal de potes sur Rennes qu'on pouvait inviter pendant c'était un après-midi, tu vois. Donc ils sont venus, ils ont donné plein de force. Et Jean-Louis Brossard est venu après le concert et il nous a dit avec un beaucoup trop simplement, bon bah on se voit en décembre, hein, mais voilà. Et là, on a cassé notre crâne ensemble. Voilà. On n'a rien compris. On était en mode, attends, quoi, ça veut dire que là, on joue vraiment au Transmusical, parce que c'était un peu un rêve pour tous les quatre, tu vois. Marius, il est à Rennes en plus, donc Marius qui est pas là aujourd'hui, enfin qui est pas là, oui, aujourd'hui. Donc ouais, c'était un rêve de fou, parce qu'il y avait plein de groupes qu'on écoute qui sont passés par là, tout ça. Puis en plus de ça, on a eu la chance de faire un KEXP sur place. Et donc bon, bah là, le rêve est parti encore plus loin. Donc KEXP, c'est une chaîne, c'est une radio de Seattle, qui est pour nous iconique. Ils font des live sessions de groupes hyper connus dans le monde entier, quoi, et moins connus d'ailleurs. Et du coup, bah, ils viennent chaque année à Rennes, et donc nous, ils nous ont proposé. Et donc on a dit non, on comprenait rien. T'es là avec les équipes qui filment tes groupes préférés, sauf que là, ils te filment toi. Mais c'était grisant comme moment, en vrai. C'était super court en plus. Donc bref, on a eu la chance de faire ça, ça nous a donné de la visibilité à l'international aussi, tu vois. Et c'est une live session qui ressort maintenant pour démarcher, que ce soit pour la Chine, pour l'Espagne, au Portugal, pour tout en fait. C'est un format qui reste encore et dont on est trop fiers en fait.
connaît, vous avez fait quelques dates en Chine. Fin d'année, vous serez au Portugal, en Espagne. Vous avez fait aussi une belle tournée en France. Est-ce que les publics sont pareils, au final, qu'on soit en France, qu'on soit en Chine ou dans d'autres pays européens ?
Déjà, nous-mêmes, on appréhendait les concerts différemment. C'était assez impressionnant de jouer devant un public différent et on ne savait pas aussi trop comment aborder les concerts. Donc au début, je dirais qu'on a eu un temps de chauffe en Chine, qu'on essayait d'un peu sonder comment les concerts se passaient. Et en fait, on a vu que le public réagissait différemment, mais réagissait énormément, mais pas de la même manière. Et donc c'était hyper intéressant, même culturellement pour nous, de voir en fait leur façon de vivre la musique et vivre les concerts, quoi. C'était vraiment cool.
En gros, en Chine, les gens applaudissent fort pendant 2 secondes et après plus rien. Donc ça veut dire que entre 2 morceaux, t'es en mode ok, et après t'entends les bruits de pas sur scène comme ça, c'est terrifiant.
Oui, en fait, c'est ça. Donc pour nous, on avait ça à appréhender, quoi. Et en fait, on a grave pris ça aussi comme un challenge aussi de les amener un peu avec nous, de réussir à les prendre un peu plus avec nous. Et je pense qu'on s'est plus libéré sur scène. On a peut-être poussé les curseurs plus loin que ce qu'on faisait en France. Et c'était hyper instructif, en fait, et ça nous a permis d'aller peut-être plus loin dans le show et de réussir à plus les capter. Enfin, j'ai eu l'impression, en tout cas. Et on a passé des super moments, des super concerts. C'était vraiment cool.
Vous avez fait d'autres festivals d'envergure, notamment il y a quelques semaines, le MAMA Festival, un autre festival de rencontres professionnelles. Ici, vous êtes au Crossroads Festival, qui est aussi un festival de rencontres professionnelles. Est-ce qu'on appréhende aussi ce type de concert un petit peu différemment ? Ici, comme le MAMA, c'est aussi des publics particuliers, puisque ce sont des professionnels. Est-ce qu'on appréhende notre set d'une certaine manière ? Sachant qu'ici, au Crossroads, le set est de 30 minutes, c'est-à-dire très court.
On l'appréhende forcément un petit peu différemment, juste... Bah, principalement pour une des raisons, c'est qu'effectivement, on a 30 minutes. Donc en fait, on est obligé aussi de rebosser un set dans cette heure-là, dans une durée très courte. C'est-à-dire qu'il faut être intense, mais en même temps, il faut réussir à mettre de la nuance aussi là-dedans. Mais... nous quatre, j'ai l'impression qu'on le prend quand même, on essaye en tout cas, et l'objectif c'est que sur scène on ressente la même chose qu'à n'importe quel concert, c'est-à-dire on est là vraiment pour passer un moment collectif ensemble avec le public et de transcender un petit peu ce qui se passe entre nous et le public. Donc ça, là-dessus, bah, c'est plutôt similaire aux autres, mais par contre on connaît aussi la dimension qu'il peut y avoir derrière. On sait très bien qu'il y a des professionnels, on sait très bien qu'il suffit de certaines rencontres à ce moment-là et que les gens soient choqués par tel ou tel morceau et que ça développe des trucs. Mais en tout cas, au sein de nous quatre et avec Paul au son, j'ai pas l'impression qu'on l'envisage non plus d'une manière complètement diamétralement opposée, parce que l'objectif c'est de jouer. En fait, nous ce qu'on aime c'est jouer notre musique, c'est le jouer en live, et peu importe face à qui, on le jouera toujours de la même manière, juste avec le cœur.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement comment Dionysiac vous aide dans l'accompagnement ?
Bah, on est content justement qu'il y ait des personnes qui s'occupent de cet aspect-là qui n'est pas le nôtre. Évidemment, on l'a fait pendant un temps, on continuera à le faire. On a ce côté social où on est obligé de dialoguer aussi avec les professionnels, etc. Et des fois, c'est une obligation, des fois, juste, c'est aussi intéressant et il faut le faire. Mais je trouve que c'est satisfaisant et soulageant aussi d'avoir juste des personnes qui te soutiennent derrière et qui vont faire aussi un travail de professionnel à professionnel, de business entre guillemets, mais aussi juste de taper à la porte d'à côté ou de même plus loin, des réseaux qu'on n'a pas forcément non plus. Et ça se passe pour l'instant très bien. Après, on ne sait pas comment nos équipes fonctionnent exactement. Il faudrait mettre une petite caméra au-dessus d'eux pour voir s'ils font bien leur travail.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? D'autres dates peut-être aussi après le Crossroads Festival à Roubaix ? Donc en Espagne, au Portugal, peut-être en France encore ?
Donc en France, le mois de novembre est un peu complet. Et ça reprend à partir de janvier, doucement, mais sûrement. Et donc là, on joue à Tulle le 15 janvier. Et le 16, on joue à Saint-Vincent-de-Tyros, dans les Landes. Ouais. Voilà. Et puis, on a une date aussi aux Nuits Farouches, le 11 juillet. Nous, on est plutôt actifs sur Instagram, mais sur YouTube, sur Facebook. Bon, en tout cas, partout, on a bien voulu être.
Merci beaucoup.
For later.